RCF.
Je pense, donc j'agis. Une émission présentée par Melchior Gormand.
Bonjour à tous. Au mois d'octobre, le pape François a ouvert un synode autour du thème pour une église synodale, communion, participation et mission. C'est un événement majeur pour l'église catholique car les fidèles du monde entier sont invités à s'exprimer dans le cadre de cette démarche. Mais qu'est-ce qu'un synode et que faut-il attendre de celui-ci? On en parle ce matin dans Je pense donc j'agis. On verra plus particulièrement à 10h quelles sont les propositions faites dans certains diocèses. Nous attendons bien sûr vos réactions et témoignages. Quel regard vous portez sur ce synode? Dites-nous si vous pensez participer à cette démarche. Et puis quel type de changement aimeriez-vous voir dans l'Église et sur le rôle des laïcs notamment? Pour participer, vous envoyez un mail dès maintenant à l'adresse direct@rcf.fr. Vous laissez vos messages dans notre groupe Facebook Je pense donc j'agis et vous appelez Mélissa au standard au 04 72 38 20 23.
Jusqu'à 11h, Je pense donc j'agis sur RCF.
Bonjour Véronique Alzieux.
Bonjour Melchior et bonjour à tous.
Vous êtes la rédactrice en chef Foi et Spiritualité. On parle de ce synode ce matin.
Absolument Melchior. Au mois d'octobre dernier, vous l'avez rappelé, la démarche synodale sur la synodalité a été lancée par le pape François et cette démarche s'achèvera en octobre 2023 par une rencontre des évêques du monde entier à Rome. Mais entre-temps, et c'est ce qui est remarquable, partout dans le monde, les fidèles auront pu s'exprimer sur la façon dont ils envisagent l'avenir de l'Église et la façon dont ils souhaitent la voir évoluer. L'Église est en crise, ce n'est un secret pour personne, essentiellement d'ailleurs dans les pays occidentaux. Le nombre de prêtres est en chute libre et on ne cesse de le rappeler, la pratique religieuse suit la même courbe. Alors l'enjeu de ce synode est important, le rôle des laïcs, la place des femmes, la mission des prêtres sont parmi les questions complexes qui traversent l'ensemble de l'Église universelle sur fond de scandales pédocriminels dans de nombreux pays. En France, la plupart des diocèses se sont déjà mis au travail en s'appuyant sur des documents élaborés pour guider la réflexion et en particulier sur un questionnaire accessible à tous. Alors les croyants seront-ils au rendez-vous? À quoi sert cette phase préparatoire? Et à quoi peut-on s'attendre? Qu'est-ce qu'il faut en attendre? Et puis bien sûr, le synode de 2023 prendra-t-il les orientations que certains espèrent et que d'autres redoutent? C'est ce que nous allons voir dans cette émission, Melchior.
Et on va en parler avec nos deux invités qui nous accompagnent jusqu'à 10h, Véronique.
Monseigneur Alexandre Joly, bonjour à vous.
Bonjour Véronique.
Merci d'être avec nous. Vous êtes évêque auxiliaire du diocèse de Rennes et vous êtes responsable de la commission, disons, d'accompagnement et de coordination de ce synode sur la synodalité pour la France. Monique Beaujard, bonjour à vous.
Bonjour.
Merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes théologienne, Monique Beaujard, et vous êtes membre du collectif Promesse d'Église que vous allez nous présenter tout de suite. Promesse d'Église, qui est-ce que ça regroupe et quelle est l'intuition de ce collectif?
Promesse d'Église regroupe une quarantaine d'organisations catholiques, grandes, petites. Ça va du Secours catholique à chrétiens dans l'enseignement public et de toutes tendances. Ça va aussi de l'ACO jusqu'à l'Emmanuel, par exemple. Donc, c'est pas les mêmes sensibilités ecclésiales, c'est pas toujours les mêmes sensibilités sociales. Et Promesse d'Église est née à la suite de la lettre du pape au peuple de Dieu de août 2018, où il a interpellé vraiment tout le peuple de Dieu, donc nous tous, pour dire qu'il avait besoin de tout le monde pour le changement à la fois ecclésial et social dont nous avons besoin. Et ces organisations ont pensé, enfin il y en a quelques-uns qui étaient bien sûr au début, qu'on ne pouvait pas laisser cette lettre sans réponse.
Donc c'est ça.
Et dans cette lettre, il demande à tous de combattre le cléricalisme et la synodalité, elle a la réponse pour combattre le cléricalisme.
Donc c'est à ce titre-là que nous vous avons invité dans cette émission, Monique Beaujard, non pas pour représenter ce collectif, puisque par définition c'est un collectif, mais pour en dire en tant que membre ce que ce collectif porte et le type de réponse qu'il souhaite apporter à l'interpellation du pape François. Monseigneur Alexandre Joly, lorsque le pape décide d'un synode et le moment où il l'annonce, quel laps de temps y a-t-il ? Combien de temps y a-t-il entre ces deux étapes ?
Ça dépend vraiment de la manière dont il met en œuvre ce synode. Et là, on voit bien qu'il y a une progression depuis le Concile Vatican II, qui n'est pas non plus une nouveauté dans la vie de l'Église, puisque l'Église a une dimension, on va dire, synodale depuis l'origine, et qui a parfois été mis en avant, parfois mis au second plan. Et donc là, le pape François, dans le cheminement de tout ce qui s'est suivi depuis le Concile Vatican II, ouvre une porte peut-être encore plus forte, plus extraordinaire du synode, puisqu'il veut que toutes les églises particulières, donc tous les diocèses, puissent participer à cette grande consultation, à ce grand travail, et que du coup l'ensemble de l'Église universelle soit en synode. Alors, qui va conduire, donc il nous a invités plutôt au mois de mai dernier, c'était au moment de la Pentecôte, pour le synode qui sera célébré en octobre 2023. Donc effectivement là on a un bon temps, plus de 2 ans pour préparer et célébrer le synode.
Alors c'est vrai que pour nous Français, l'annonce de ce synode et son ouverture plus exactement vient se mêler ou est percutée par l'actualité récente. Hein. On ne peut pas ne pas parler du rapport de la CIAZ, par notamment aussi peut-être la démission de Monseigneur Opetit à Paris. Enfin, beaucoup d'événements marquent en ce moment l'Église de France et on peut dire que ce synode arrive au bon moment. Est-ce qu'on pourrait dire ça ?
Il y a aussi un élément très fort qui est dans le contexte, c'est qu'il y a des éléments de vitalité assez extraordinaires dans la vie de l'Église. Il y a des éléments de crise, des éléments de difficulté qui conduisent aussi à certainement d'une part un discernement et puis à une purification à l'intérieur de la vie de l'Église. Mais il y a aussi des forces vives et je pense aussi au pape François qui récemment parlait de la France comme étant un lieu de créativité. Donc il y a des éléments de force. Mais effectivement, dans la situation présente, sans doute que, ou même plutôt sans aucun doute, la démarche synodale est une des réponses premières à cette interpellation qui nous vient du rapport de la CIAZ avec à la fois son constat très très fort et très interpellant pour ce qui est de la vie de l'Église et une invitation à des chemins de réforme, de conversion. Et puis, par ailleurs, d'une part, le synode n'est pas la seule réponse à la question qui est posée par le rapport de la CIAZ. Et puis, le synode aussi va plus loin que la seule question qui est posée par le rapport de la CIAZ, même si le rapport de la CIAZ a ouvert d'une manière assez heureuse plein d'éléments de réforme qui sont invités pour l'Église. Mais la question de synode, c'est vraiment aussi, j'allais dire, une Église qui vibre, qui vit, et où tous les membres, quels qu'ils soient, ont leur place.
C'est ça, je rappelle que le titre, si on peut dire, ou en tout cas le thème de ce synode, c'est « Pour une Église synodale, communion, participation et mission ». Alors, depuis le début de cette émission, on a déjà certainement employé beaucoup de mots qui relèvent un peu du jargon ecclésial. Il faut penser à nos auditeurs peu familiers, justement, de ce vocabulaire. Je vais vous demander à chacun, l'un après l'autre, de me dire comment il entend ce mot « synode ». Monseigneur Alexandre Joly, d'abord pour vous, d'un point de vue ecclésial, « synode », qu'est-ce que ça veut dire ?
J'ai souvenir d'un petite anecdote au mois de septembre quand le cardinal Mario Grech, qui est le secrétaire général donc du synode des évêques, était venu à Paris pour présenter la démarche. Il invitait à trouver le bon langage pour que à la fois on comprenne le langage du monde et qu'on puisse parler le langage du monde. Et du coup, un des participants lui a demandé mais du coup, comment vous traduisez le mot synode ? Parce que c'est pas un mot habituel dans notre langage français, langage courant.
On parle plutôt de consultation hein, dans le langage courant.
Mais c'est pas forcément ça, justement. Et du coup, le cardinal a dit, il y a certainement pas un terme qui puisse vraiment
équivalent.
Donner tous les éléments du sens profond du synode. Il dit, il faut donc le vivre. Et c'est peut-être un peu une des difficultés, c'est que si on a parfois un peu oublié cette démarche où l'ensemble de l'Église avance, Le vrai sens du mot synode, ou l'étymologie plutôt du mot synode, c'est marcher ensemble, ce qui est une des caractéristiques du peuple de Dieu depuis l'origine. Ça veut dire que c'est pas simplement quelques-uns qui font vivre l'Église, ni une réalité institutionnelle, ni tel ou tel aspect. C'est l'ensemble du corps du Christ. Donc le corps du Christ, c'est tous les chrétiens, quels qu'ils soient. Tous sont membres du Christ et tous participent. Donc synode, si je pourrais traduire, c'est un corps du Christ où tous les membres sont présents, tous les membres participent. Tous les membres sont en communion et tous les membres sont en tension vers la mission, puisque l'Église n'a de sens dans une perspective, une dynamique de mission.
Monique Bojard, on complexifie encore l'affaire en parlant de synode sur la synodalité. Comment est-ce qu'il faut comprendre cette expression ?
Alors, synode, c'est donc en fait marcher ensemble, c'est l'étymologie grecque de ce mot-là. Et le synode des évêques existe en fait, et Monsieur Joly l'a dit tout à l'heure, depuis la fin du Concile Vatican II, depuis 1965. Mais ce synode concernait les évêques. Et aujourd'hui, le pape a repris en fait ce thème du synode qui est tombé un peu en désuétude, je dirais, ou en tout cas qui concernait que les évêques. Et il a déjà organisé 3 synodes, un synode sur la famille, un synode pour les jeunes, un synode sur l'Amazonie. Et dans les 3 cas, il a déjà consulté tout le peuple de Dieu. Parce que ce qu'il a dit dans un discours qu'il a fait en 2015 à l'occasion de la 50e anniversaire de ce synode des évêques, c'est que l'Église tout entière doit devenir synodale. Or, il se rend bien compte que sur le terrain, les gens ne comprennent pas ce qu'est cette église synodale qu'il souhaite. C'est pas juste une réunion d'évêques et c'est pas juste un synode diocésain, une réunion diocésaine, c'est pas juste une consultation, c'est en fait de marcher tous ensemble, d'être tous partie prenante de cette église. Et l'église n'est pas le domaine réservé des quelques clercs ou des évêques, l'église c'est nous tous en fait. Et donc ce synode sur la synodalité, pour essayer d'expliquer ce que ça veut dire synode, ce que ça veut dire synodalité, et en ce sens-là, je rejoins ce que disait le cardinal grec, que Promesse d'Église a rencontré aussi au mois de septembre, c'est-à-dire c'est avant tout à vivre. C'est-à-dire il faut qu'on fasse l'expérience localement, dans nos différents lieux d'Église, de marcher ensemble, prêtres et laïcs, hommes et femmes, jeunes et vieux. Cette expérience, se dire cette Église, c'est nous qui donnons son visage, alors quel visage voulons-nous donner de cette Église ?
Il est 9h15 sur RCF et vous l'entendez, ce matin nous parlons de ce synode qui a été annoncé par le pape François pour une église synodale, communion, participation et mission. Vous venez réagir et apporter vos témoignages. Dites-nous ce que vous pensez de ce synode et de son utilité, de son objectif bien sûr. Dites-nous si vous allez participer à cette démarche et puis quel type de changement vous aimeriez voir dans l'église et sur le rôle des laïcs notamment. Pour participer, vous appelez dès maintenant le 04 72 38 20 23 et vous venez à l'antenne. 04 72 38 20 23. Vous laissez également vos messages dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand et Véronique Alzieux.
Avec nos deux invités, Véronique qui nous accompagne jusqu'à 10h, Monseigneur Alexandre Joly, évêque auxiliaire du diocèse de Rennes, et Monique Bojard, qui est théologienne et puis membre du collectif Promesses d'Église.
Monique Bojard, ce synode sur la synodalité, il est universel, c'est-à-dire qu'il s'adresse à l'Église du monde entier. Parce que là, on pourrait donner l'impression que ça concerne uniquement la France.
Non, ça concerne le monde entier. Comme le synode sur la famille a consulté les fidèles du monde entier. Comme le synode sur les jeunes aussi. Bon, le synode sur l'Amazonie était bien sûr plus restreint. Mais voilà, ça concerne le monde entier parce que l'Église est partout dans le monde et bien évidemment, elle n'a pas le même visage partout. Ce qui fait que les réponses, les aspirations vont pas être pareilles partout. Et c'est vrai que les aspirations de l'Europe de l'Ouest ou de l'Amérique du Nord sont pas forcément ceux que de l'Asie ou de l'Afrique. Mais tous ensemble, nous formons une Église et peut-être qu'un des défis de ce synode, c'est aussi de nous faire prendre conscience de cela. Et c'est un peu ce qu'on essaye de vivre à Promesse d'Église, c'est-à-dire que nous sommes différents, nous ne sommes pas forcément d'accord sur tout, Mais ce qui nous rassemble, c'est-à-dire la parole de Dieu, le Christ, est quand même plus important que toutes nos différences. Et si on progresse, je pense, sur ce chemin synodal, sur le fait de marcher ensemble avec nos différences, on peut donner de l'Église une autre image. Alors, et c'est vrai certainement aussi pour d'autres régions.
Monseigneur Alexandre Joly, comment concrètement va-t-on impliquer les fidèles, les croyants, pour, comme le disait Monique Bojard il y a un instant, que ce synode ne concerne pas que les clercs, les évêques auxiliaires ou les vicaires?
Oui, il y a aussi une dimension très, très importante, c'est que, à la fois dans notre réflexion, dans notre partage, dans le chemin, dans le discernement qui peut être fait dans les différents lieux de la vie de l'Église, on participe à la réflexion de l'ensemble de l'Église universelle, mais également on regarde notre manière de vivre la synodalité concrètement dans notre paroisse, dans nos groupes chrétiens, dans nos fraternités, dans nos mouvements, dans nos associations. Et il y a quelque chose de très très beau de la part du pape François, c'est de dire pas simplement participer à la réflexion qui va concerner l'Église universelle, mais mettez-vous en route pour vivre aussi concrètement, là où vous êtes, une démarche synodale. Parce qu'en fait, la question synodale, elle touche, la nature de l'Église. C'est le vrai de l'Église. C'est ce que doit être, ce que devrait être l'Église tout le temps. Pas simplement à tel ou tel moment, au mois d'octobre 2023, d'une manière ou d'une autre. C'est aujourd'hui, dans le chemin. Et donc, du coup, le défi est vraiment de permettre à tous, alors, certainement qu'on commence par les structures les plus visibles, parce que c'est celles que nous faisons vivre, c'est celles avec lesquelles nous fonctionnons, mais pour petit à petit rejoindre tous. Alors, c'est là un vrai défi. Et notamment, les plus petits, les plus pauvres, peut-être aussi les plus éloignés aujourd'hui de la vie de l'Église, de faire en sorte que chacun, puisqu'il est partie prenante, le deuxième mot de synode, c'est participation. Ça veut dire que chacun participe, comme Madame Bojard le disait à l'instant. C'est pas simplement quelques responsables ou quelques personnes qui ont une responsabilité, soit au niveau d'un mouvement, au niveau d'un diocèse. C'est tous les baptisés sont concernés. Et même le pape François nous a dit. Et allez aussi rejoindre vos frères qui ne sont pas catholiques, chrétiens, d'autres confessions, parce que eux aussi sont concernés. Il y a vraiment quelque chose d'universel. Donc le défi aujourd'hui, c'est d'une part de faire en sorte que chaque communauté, chaque groupe chrétien puisse se mettre en route pour ce chemin, pour cette réflexion, pour ce discernement, mais qu'en même temps, l'appel soit plus large, plus universel, plus pour tous. Et du coup, on va toucher le vrai de l'Église.
Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment faire en sorte que les questions qui sont posées dans ce synode et les questions que pose ce synode rejoignent, y compris ceux qui ne sont pas des familiers, ceux qui ne sont pas des pratiquants, ceux qui ne sont pas forcément très investis, très impliqués dans l'Église.
Oui, au départ, on attendait d'ailleurs les uns les autres un questionnaire un peu précis en disant, ben voilà, on va répondre première question, deuxième question. Et en fait, le secrétariat du synode des évêques nous a invités à des points d'attention. Il appelle ça des pôles. Alors, ça veut dire qu'il dit, il y a des réalités dans la vie. Alors, par exemple, comment on fait pour écouter? Qu'est-ce que c'est que écouter? C'est une des réalités premières. Ça veut dire que on donne une place à l'autre, ça veut dire qu'on se met dans une disposition intérieure, ça veut dire que on accepte aussi que la parole de l'autre va me bouger, va me déstabiliser, va me faire aller un peu plus loin. Donc chacun est amené. Alors après, il faut qu'il y ait des intermédiaires. Donc les diocèses sont un intermédiaire. Et puis il y a beaucoup de réalités dans la vie de l'Église, de Secours catholique qui a proposé tout un chemin de réflexion, les apprentis d'Auteuil qui ont proposé aussi un autre chemin de réflexion. C'est-à-dire que chacun s'approprie la démarche en trouvant la manière de parler aux autres, de sorte que chacun puisse trouver sa place, se dire, mais ah bah oui, ça me concerne, ah bah oui, les questions, elles sont accessibles, ah bah oui, je peux apporter quelque chose. Et du coup, c'est vraiment l'Église qui continue à avancer ensemble.
Monique Bojard?
Oui, en fait, cette dimension d'écoute est tout à fait primordiale. Le pape, quand il a fait ce discours en 2015, où il a lancé cette idée de cette Église synodale, il donne deux caractéristiques. C'est en fait une Église de l'écoute, où chacun a à apprendre de l'autre, et c'est une Église du service, où personne n'est au-dessus de l'autre. Et c'est là où on est sur un changement fondamental pour l'Église, qui a fonctionné pendant des siècles sur un modèle vertical. Et bon, toute la société était sur un modèle vertical, je veux dire, vous aviez la monarchie absolue, etc. Mais l'Église a continué à fonctionner sur un schéma vertical avec les prêtres et les évêques qui sont les sachants et qui dispensent l'enseignement de haut en bas. Et les laïcs qui sont toute leur vie, finalement, des élèves qui doivent apprendre et qui ne sauront jamais les choses de Dieu. Bon, je caractérise un peu, mais c'est cette idée que l'Église a été un peu coupée en deux, hein, entre l'Église qui enseigne et l'Église qui doit apprendre. Et c'est cela que le synode, en fait la synodalité, je veux dire, veut changer. C'est-à-dire que en matière de la foi, il n'y a pas tellement de sachants. Oui, il y a des gens qui ont pu faire des études et qui savent certaines choses, mais enfin, la foi, ça s'incarne. C'est dans la vie qu'on l'expérimente. Donc, vous avez des gens très simples, mais qui vivent de l'amour du Christ. Et leur témoignage, nous pouvons en apprendre. Le secours catholique le montre tous les jours avec l'écoute des plus pauvres. En fait, on a à apprendre des plus pauvres et des plus petits. Mais d'autres occasions, on a à apprendre de nos frères et sœurs protestants ou orthodoxes ou musulmans. On a à apprendre de ceux qui ne croient pas, parce qu'ils ont souvent des interrogations concernant l'Église. Donc, cette écoute et accepter d'apprendre des autres et de non pas être dans une Église qui pense détenir la vérité et qui pense pouvoir la donner aux autres.
Donc c'est très important.
C'est un changement de posture qui correspond aussi à un changement de mentalité. Et donc c'est quelque chose qui va s'inscrire dans la durée parce que les changements de mentalité sont toujours longs.
Donc ça, c'est effectivement, c'est très important de le souligner parce que, Monseigneur Alexandre Joly, cette phase préparatoire, avec, on va en reparler, des outils qui sont proposés, ça n'est pas une enquête. C'est vraiment permettre à ceux qui expérimentent et qui vivent déjà la synodalité d'en témoigner, de dire en quoi ça fait vivre leur communauté et comment ça pourrait aider d'autres à mieux vivre cette synodalité, ce partage des responsabilités, cette implication personnelle.
C'est aussi en marchant de cette manière-là, en écoutant avec la parole de Dieu à la première place, l'écoute de l'Esprit-Saint, en prenant le temps du discernement, que l'Église témoigne. Elle témoigne de la manière dont elle se laisse conduire par le Christ. Donc il y a quelque, vraiment de l'ordre du témoignage et de la mission. Après, quand on regarde l'Église, c'est vrai qu'en France, il y a des traits caractéristiques de la vie de l'Église. Et puis, on voit que dans un certain nombre de pays d'Afrique, les prêtres ont confié à des laïcs, hommes, femmes, une responsabilité d'une communauté dans tel ou tel endroit de la paroisse. C'est ce qu'on appelle là-bas des catéchistes. On voit qu'en Amérique latine, le travail synodal et notamment continental est bien plus avancé que dans notre usage ici en France. On voit que dans la partie orientale de l'Église, le fait de cheminer ensemble, de vivre une démarche synodale est très forte, certainement aussi du fait de l'échange œcuménique qui est peut-être plus explicite ou plus direct. Donc on voit que l'Église, elle, comme elle est universelle, elle a besoin de s'inspirer aussi de la richesse et de la spécificité de chacun. Ça ne veut pas dire que de ce fait-là, on va tous fonctionner ensuite de la même manière, parce que justement, l'Église, elle est diverse et c'est vraiment une de ses grandes forces. Il y a une communion et une diversité.
Alors, ce qui va émerger, alors on le saura dans 2 ans, hein, enfin à peu près, de ce synode, est-ce que c'est une forme d'uniformité? Est-ce que l'universalité de l'Église est en vue d'une uniformité? Vous venez de répondre, en fait.
L'Église l'Église se trahirait, en fait. Elle se trahirait. Elle trahirait ce que le Christ lui a confié. Le Christ lui a pas dit tu vas être d'une seule manière. Justement, le Christ a ouvert avant sa passion et puis après le mystère de la résurrection de manière très très forte. Et quand on lit le livre des Actes des Apôtres, on voit cette ouverture à l'universel qui fait partie donc de la mission première que le Christ a donnée à son Église et donc qui fait partie de la nature de l'Église. Donc si tout d'un coup, parce qu'on a cheminé ensemble, l'Église en venait à dire ben maintenant on va tous fonctionner de la même manière, ben ce serait plus l'Église catholique. L'Église catholique, c'est l'Évangile qui prend une forme différente, je vous le disais, ici en Afrique, ici en Asie, ici en Amérique latine, et c'est magnifique. Donc chacun, du coup, apporte quelque chose, Mais ça veut dire aussi que le chemin ensemble va donner certainement des points d'attention. Alors moi, je ne sais pas ce qui va sortir du synode. Ce que je sais, c'est que il sort déjà des choses du synode. Alors, puisque en vivant quelque chose, ici et là, il y a déjà des fruits du synode dans la manière même d'entrer dans cette grande consultation, dans ce grand chemin, dans ce que le pape a appelé l'étape de l'église diocésaine, donc où chaque église particulière, ici et là dans le monde, chemine, s'approprie la démarche.
Je crois que nous avons un auditeur dans quelques instants, Melchior, qui veut avoir des informations plus précises. Mais j'aimerais vous faire réagir d'abord, Monique Béjart, sur cette question d'uniformité de l'Église.
Alors, je pense qu'en fait, l'Église doit donner à voir une Église beaucoup, un visage beaucoup plus qui reflète la diversité, mais c'est quand même pas été le cas. Et quand Monsieur Joly dit, en fait, oui, il y a d'autres visages en Afrique ou en Amérique latine, je suis tout à fait d'accord avec lui, sauf que en France et en Europe, l'Église, pendant des siècles, a montré un visage, je veux dire, s'est présenté comme un bloc monolithique. C'était à prendre ou à laisser. Vous rentrez dans le moule ou vous n'y étiez pas. Et qu'on le veuille ou non, et même si aujourd'hui ces choses changent, dans l'esprit de beaucoup de gens, cela reste. Et les gens ont du mal à se retrouver dans l'Église parce qu'ils ont l'impression que ça implique de rentrer dans un moule, de prendre tout un enseignement, notamment moral, dans lequel ils ne se retrouvent pas, etc. Et au point où certains dysfonctionnements jettent quand même un ombre aujourd'hui sur l'Évangile. Donc on ne doit pas trop vite évacuer toutes les difficultés qu'il y a aujourd'hui dans l'Église. On a parlé tout à l'heure du rapport de la SIAZ. C'est vrai que le synode ne répond pas que à ça, mais le synode répond aussi à ça, parce que le synode est là aussi, cette synodalité est aussi cette façon de combattre le cléricalisme qui a un rapport dévié par rapport à l'autorité. Or, on a vécu sur des siècles sur un rapport d'autorité dans l'Église, dont j'ai expliqué tout à l'heure. Mais au-delà, finalement, ce que vise le pape en lançant ce synode, c'est quand même de rendre à nouveau l'Évangile audible dans la société. Parce que il y a un ombre jetée par certains dysfonctionnements, et cette ombre aujourd'hui s'étend jusque sur l'Évangile, ce qui fait que nos contemporains ne sont plus intéressés pour l'apprendre. Et si nous rêvons, et c'est ça à la fin de ce livret de préparation pour le synode, il faudra lire tout à l'heure en conclusion de l'émission ce qu'elle écrit tout à fait à la fin, parce que c'est une très belle phrase pour dire que nous avons à rêver l'Église de demain, rêver une Église qui rendrait vraiment l'Évangile à nouveau accessible, mais aussi attirant pour tous.
Gilbert, bonjour, vous êtes à Toulon.
Oui, bonjour à vous tous, merci pour votre émission.
Eh bien, merci à vous de nous appeler et on vous écoute.
Voilà, c'était par rapport à ce qu'a dit un de vos intervenants tout à l'heure sur le fait que le synode sur la synodalité devait aller chercher, si je peux employer cette expression, y compris les laïcs hors de l'Église, les gens qui ont pu s'éloigner de l'Église, les gens qui ne sont pas du tout dans l'Église, etc. Donc je pense que c'est effectivement une très belle idée. Seulement, je voulais savoir comment concrètement cette chose peut se faire dans les diocèses, étant donné que moi, là où je me trouve, à part quelques pages sur le site internet du diocèse, je n'ai rien vu dans les églises et je suis un petit peu inquiet puisque j'ai l'expérience du synode sur la famille, au moment duquel, pour pouvoir m'exprimer, j'avais dû aller télécharger un document sur le site du diocèse de Lyon. Voilà. Donc je me demande ce qui va être fait, s'il va être fait quelque chose, ou là encore si ça va se passer entre clercs. Ou bien si il va y avoir vraiment une consultation de tout le monde. Voilà, c'est à la fois une interrogation et une inquiétude.
C'est intéressant. Merci beaucoup Gilbert de nous avoir appelé au 04 72 38 20 23. Monseigneur Alexandre Joly, vous avez des éléments de réponse à apporter à Gilbert quant à l'organisation de ce synode ?
La difficulté, elle est dans la réalité elle-même. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens ont pris leur distance avec l'Église, ils sont plus dans les réseaux d'église et du coup, pour recevoir l'information, c'est beaucoup plus difficile ou beaucoup plus acrobatique. Alors après, certainement que l'église locale qui se met en route, qui témoigne qu'elle se met en route, qui communique sur le fait qu'elle se met en route, qui laisse apparaître qu'elle est vraiment dans cette démarche de l'église universelle et qui laisse aussi apparaître que chacun est invité, elle participe à rejoindre des gens qui sont peut-être un peu plus loin. C'est peut-être un des chemins, parce que il y a votre radio RCF contribue, un site internet d'un diocèse contribue, mais on est toujours sur à chaque fois un certain public. Donc pour pouvoir rejoindre tous, qui est le défi de l'évangile depuis le départ, la manière dont une église locale le vit et en témoigne peut être un des chemins. Après, il y a des diocèses qui ont eu des démarches de créativité vraiment très très beaux, qui ont imaginé beaucoup de points d'interpellation, beaucoup de chemins où ils disent ben voilà, nous, voilà ce qu'on vous propose, voilà les réseaux où on invite les uns et les autres à participer. Il y a nos réseaux internet qui fonctionnent, mais c'est vrai que je comprends bien cette interrogation, parce que c'est la difficulté. Comment on peut rejoindre tous, et surtout ceux qui sont partis parfois sur la pointe des pieds.
Et on verra justement à 10h, on prendra l'exemple de deux diocèses, celui de Tournai en Belgique et celui de Cahors dans le sud, voilà, pour voir un petit peu comment ils s'organisent dans leur diocèse. Monique Beaujard, une réaction ?
Oui, je pense que, bon, selon la diocèse, en fait, comme l'a dit Mgr Joly, il y a plus ou moins de créativité, plus ou moins d'enthousiasme aussi pour participer à ce synode. Donc je pense que les laïcs ne doivent pas tout attendre de leur évêque ou de leur curé en la matière, mais ils peuvent s'organiser eux-mêmes. Il y a les 10 thématiques qui sont accessibles sur Internet. Ce livret est accessible sur Internet. On ne va pas travailler tous les 10 thématiques, mais on peut en sélectionner une ou deux qui paraissent plus pertinents pour la situation dans laquelle se trouve. Et on peut, entre laïcs, travailler cette thématique et essayer d'inviter son curé, son évêque, ou voilà, son aumônier, pour y participer. Et si on ne trouve pas de clerc pour y participer, eh ben, on fait le travail entre laïcs et on peut le faire remonter au diocèse. Et si le diocèse n'en tient pas compte, faites-le remonter directement à Mgr Joly pour qu'il en tient compte dans la synthèse.
Ce qu'il ne manquera
national,
pas de faire.
Ou faites-le remonter directement à Rome, qui donne expressément cette possibilité aussi. Maintenant, faut être réaliste, si tout le monde fait tout remonter directement à Rome, Rome va être tellement submergée que ça aura du mal à revenir. Mais essayez, et puis pour toucher les gens qui ne sont pas dans l'église, on a quand même tous nos autres contacts. Vous avez peut-être des activités sportives, vous avez peut-être des activités associatives autres qui font que vous rencontrez des gens qui ne sont pas, qui viennent pas à l'église. Et c'est par ces biais-là. On va pas faire venir des gens qu'on connaît pas. On va faire venir des gens qu'on connaît par ailleurs pour leur dire, tiens, j'aimerais que tu viennes discuter avec moi de telle ou telle question.
Allez, on va marquer une petite pause dans Je pense donc j'agis. Vous en profitez pour nous joindre au 04 72 38 20 23. Venez nous parler de ce synode, venez réagir à ce que disent nos invités. Dans un instant, c'est Marie qui viendra à l'antenne. Rejoignez également le groupe Facebook Je pense donc j'agis et envoyez-nous un mail à l'adresse direct@rcf.fr. À tout de suite.
RCF, Pauline de Torsiac. Le 28 novembre dernier, les chrétiens sont entrés dans l'Avent. Cette période débute le quatrième dimanche avant Noël et marque le début d'une année liturgique. Mais que signifie ce temps qui précède Noël? Comment s'y préparer? On en parle dans le Béaba du christianisme, ce lundi à 13h10. Vous souhaitez préserver l'indépendance de RCF et la qualité de ses programmes? Soutenez financièrement votre radio par un don. RCF étant reconnu d'intérêt général, votre don vous ouvre droit à une réduction fiscale de 66% de son montant. Faites un chèque avant le 31 décembre à RCF Solidarité, 69 321 Lyon, CEDEX 05. RCF, la joie de donner.
04 72 38 20 23, c'est le numéro à composer pour venir à l'antenne et participer à cette émission. Je pense donc j'agis. On se retrouve juste après Natacha Saint-Pierre.
Je vois des milliers de fleurs lancées dans le cœur des gens. Je vois ton âme et ton cœur dessinées au firmament. Tu passeras tout ton ciel à faire du bien sur la terre. Faire briller des étincelles, simplement. Tu jetteras des fleurs, tu jetteras des fleurs dans des milliers de cœurs qui cherchent le bonheur. Tu lanceras du ciel, tu lanceras. chaque jour un soleil. Ta petite voix révèle tous les secrets de l'enfance. Elle nous ouvre à l'éternel, à l'amour et à la danse. Tu passeras tout ton ciel à faire du bien sur la terre, à partager tes merveilles, ta confiance. Tu jetteras des fleurs, tu jetteras des fleurs dans des milliers de cœurs qui cherchent le bonheur. Tu lanceras du ciel, tu lanceras du ciel des bouquets éternels, chaque jour un soleil. Des poèmes comme l'on sème de l'amour, des je t'aime, des ritournelles pour toujours. Tu jetteras des fleurs, tu jetteras des pleurs dans des milliers de cœurs qui cherchent le bonheur. Tu lanceras du ciel, tu lanceras du ciel des bouquets éternels, chaque jour un soleil. Tu jetteras des fleurs, tu jetteras des fleurs dans des milliers de cœurs qui cherchent le bonheur. Tu lanceras du ciel, tu lanceras du ciel des bouquets éternels, chaque jour un soleil.
Tu jetteras des fleurs, c'était Natacha Saint-Pierre en duo avec la chanteuse Lou sur RCF.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Véronique Alzieux.
Et avec nos deux invités, Mgr Alexandre Joly, évêque auxiliaire du diocèse de Rennes, et Monique Beaujard, théologienne et membre du collectif Promesses d'Église. Nous parlons du synode pour une église synodale, communion, participation et mission. Vous avez la parole au 04 72 38 20 23. C'est le numéro qu'a composé Marie, qui habite dans l'Indre. Bonjour Marie.
Bonjour. Merci de m'accueillir. J'espère que je vais arriver à vous parler. Et je vais être peut-être un petit peu longue, je vais essayer de raccourcir. Je l'attends depuis 20 ans, ce synode. Peut-être pas avant, parce que j'avais pas besoin, mais depuis 20 ans, une vingtaine d'années. Parce que je me suis trouvée, nous nous trouvons dans un secteur qui a été, dans les années 50, donc j'étais juste née, déchristianisé, enfin considéré comme déchristianisé ou pas encore assez évangélisé. Oui. Et donc l'évêque nous avait, l'archevêque nous avait, qui était le cardinal Lefebvre à l'époque, nous avait envoyé des missionnaires, d'abord une communauté de dominicains, puis des pères de la plaine, puis des franciscains. Enfin, nous n'avons pas connu, moi je n'ai pas connu, mes parents et nous n'avons pas connu de prêtres, de curés résidents. On avait une sorte de regroupement paroissial, donc déjà il n'y avait pas d'esprit de clocher. En plus, on nous a mis tout de suite la messe en français, rétablissement de la veillée pascale, participation des laïcs, c'était des laïcs qui catéchisaient, etc.
Et alors Marie, pourquoi vous l'attendez vraiment ce synode? Pourquoi il est important pour vous?
Parce qu'il y a 20 ans, une vingtaine d'années, on nous a eu sur le secteur un prêtre qui a fait ce qu'il a pu, mais enfin, il n'avait pas du tout l'esprit. Lui, il ne souhaitait pas avoir notre paroisse, notre regroupement de paroisses. Donc, il a mis très vite les laïcs qui voulaient bien se dévouer pour faire, et il a mis en position de pouvoir des laïcs qui n'étaient pas formés pour ça. Donc, moi qui n'avais pas connu le cléricalisme des prêtres, puisqu'il se trouvait que j'avais eu la chance de ne pas connaître le cléricalisme des prêtres, oui, j'ai connu le cléricalisme des laïcs. Et ça a été une paralysie de la paroisse,
merci,
de tout le secteur.
Merci beaucoup Marie de nous avoir appelé ce matin au 04 72 38 20 23. Monique Beaujard, je vous voyais acquiescer à la caméra.
Oui, c'est-à-dire le cléricalisme, en fait, c'est un mauvais rapport au pouvoir. Et c'est pour ça que personne n'est à l'abri. Alors, quand on dit cléricalisme, ça désigne plus précisément la façon dont les clercs ont exercé le pouvoir dans l'Église. Mais bien évidemment, quand les laïcs exercent des responsabilités dans l'Église, ils peuvent aussi avoir un mauvais rapport au pouvoir. Et c'est tout l'intérêt pour moi de toute la réflexion du pape François. Parce que pendant des décennies, l'Église a surtout parlé de la sexualité. En disant, voilà, le problème est dans la sexualité, et la sexualité, c'est l'affaire des laïcs, donc les problèmes sont du côté des laïcs. Le pape François parle beaucoup plus du problème de pouvoir, qui est quand même le sexe, le pouvoir, l'argent, sont quand même les trois grandes tentations qui nous guettent depuis toujours. Et donc, en mettant l'accent sur la façon dont on exerce le pouvoir, c'est une façon aussi de mettre tout le monde à égalité dans l'Église. Parce que qu'on soit clerc, qu'on soit laïc, qu'on soit homme, qu'on soit femme, qu'on soit grand, petit, éduqué ou non, nous pouvons tous exercer le pouvoir d'une façon détestable, en prenant une emprise sur les autres, comme nous pouvons essayer de l'exercer à la suite du Christ, comme étant au service des autres. Et ça, c'est vraiment une réflexion fondamentale que nous avons tous à mener, et encore plus en France, à la suite du rapport de la CIAZ.
Père Alexandre Joly, est-ce que cette question du pouvoir fait partie de celles qui sont posées notamment dans le questionnaire qui est adressé aux fidèles à travers quasiment toutes les paroisses, hein, il est téléchargeable sur Internet notamment. Ça fait partie des questions centrales?
Ça sera toujours une question parce que c'est une question qui est inhérente à l'être humain. Dans toutes les relations humaines, la question du pouvoir apparaît d'une manière ou d'une autre. C'est très compliqué de vivre d'une manière très très paisible, très très humble, très très évangélique avec la question du pouvoir. Je pense qu'il y a une question, en tout cas, il y a un chemin de réforme autour de la gouvernance. Il y a une question qui est vraiment posée. Un des thèmes, c'est l'autorité et la participation. Donc, comment on vit la co-responsabilité? Pour reprendre un peu, c'est un peu schématique, hein, mais on va dire que le premier millénaire, l'Église est vraiment synodale. Donc, il y a la structure des évêques qui est posée, hein, de par l'invitation de Jésus qu'il lance aux apôtres. Mais l'Église, elle est vraiment synodale. Donc, elle prend le temps de cheminer de cette manière-là. Et puis, avec le second millénaire, c'est plus la dimension hiérarchique qui prend le pas et qui gomme, alors pas totalement, parce qu'il y a eu beaucoup de démarches de synode ou de concile, mais on a perdu l'habitude et du coup on a perdu le style de vie synodale. Donc ça veut dire que de prendre en compte la participation de chacun et non pas simplement le pouvoir de l'un ou de l'autre. Donc on voit bien que le pape François, ce que Madame Bojard explique, hein, mais le pape François nous invite à revivre l'Église. Où c'est, sa structure elle est posée, elle est donnée, mais en même temps où chacun prend sa place et où on commence à retrouver une habitude de travailler ensemble, de marcher ensemble, de porter ensemble la mission. C'est pas que quelques-uns qui portent la mission puis les autres qui suivent. Ça c'est si vous imaginez un corps où il y a qu'un seul de vos membres qui bouge tout seul et qui veut tirer tout le reste du corps dans une direction, c'est impossible. Le corps, il ne peut avancer que si chacun avance. Donc, la question de l'autorité, elle va se poser, et la question de la gouvernance, elle sera toujours posée, elle sera toujours à poser, elle sera toujours à transformer, à convertir, à ajuster. Et donc, certainement qu'elle se pose au niveau de l'Église. Mais ce qui est intéressant, c'est comme la réflexion, elle est aussi bien au niveau de l'Église universelle que d'une Église locale, elle se pose aussi dans nos différents groupes, dans ce jeu de pouvoir et du coup, dans le fait de convertir notre manière de vivre pour pouvoir respecter la place de chacun, la responsabilité de chacun aussi, la capacité que chacun a à prendre le chemin et la manière de conduire la vie de l'Église.
Vous êtes confiante, Monique Bojard, dans cette capacité qu'a désormais, ou en tout cas que le chemin qu'elle prend, disons, l'Église, dans le sens de cet équilibre des pouvoirs ou des lieux décisionnaires?
Oh, il y a encore un gros boulot à faire, et c'est pas gagné, et ça ne peut vraiment évoluer que si tout le monde s'y met. Il faut bien se dire que même parmi les laïcs, il y a des gens qui se retrouvent très bien dans une église verticale et qui sont très contents quand un curé pense pour eux et leur dit ce qu'ils ont à faire. Ils ont un rapport à l'autorité qui fait qu'ils aiment la verticalité. Je voudrais un instant revenir sur ce que disait Mgr Joly. Oui, globalement, l'église était plus synodale au début, et oui, ce système plus vertical date plutôt du deuxième millénaire. Sauf que l'église n'a jamais été synodale pour les femmes. Elles n'ont jamais été associées. Et ça, c'est pas l'Église en soi, n'a rien d'original, c'est tout simplement aligné sur les sociétés dans lesquelles elle a existé. Donc voilà, côté participation des femes aux décisions et au gouvernement, il reste aussi encore un grand chemin à faire. Mais encore une fois, on est sur des changements de mentalité. On doit sortir de l'idée que la foi est de l'ordre du savoir, et que donc quelqu'un d'autre va nous enseigner.
C'est de quel ordre la foi, Monique Beaujard ?
C'est de l'incarnation. C'est-à-dire cet amour du Christ, ce que l'amour du Christ fait dans nos vies, nous devons le refléter. Le pape François a écrit un très beau texte là-dessus, où il parle de la sainteté du quotidien, de la sainteté d'à côté. Tous ces gens qui, dans la vie de tous les jours, reflète quelque chose de l'amour de Dieu dans leur relation avec les autres. C'est là où on peut aussi communiquer la foi, beaucoup plus que par des discours théoriques. Et donc, si tout le monde prend conscience qu'aujourd'hui, l'annonce de l'Évangile passe par le quotidien, parce que nous, vous et moi, on donne à voir de cet amour dans notre vie de tous les jours, familiale, professionnelle, etc., ça change l'Église. Mais c'est un long chemin à faire, et puis il y a des solides résistances quand même, parce qu'il y a des gens laïcs comme Claire qui détiennent du pouvoir et qui n'ont pas envie de le lâcher.
Un message de Jean-Louis qui vient de nous laisser dans le groupe Facebook. Je pense donc que j'agis. L'Église sort peu à peu de sa cléricalité pour découvrir sa laïcité. Tous des baptistes, prêtres, prophètes et rois, peuple de Dieu, envoyés et en marche, ça change tout son fonctionnement interne. Qu'en pensez-vous, Monique Beaujard, à propos de ce témoignage de Jean-Louis qu'elle vient de nous laisser ?
C'est vrai qu'à la base de cette église synodale, il y a cette égale dignité de tous les baptisés. Il n'y a pas de baptisés de première classe et de seconde classe. Et ça, c'est très important, et le pape le dit aussi, que chaque personne qui a rencontré l'amour de Dieu dans sa vie peut en témoigner et n'a pas besoin d'abord d'aller faire un doctorat de théologie pour pouvoir parler de ce que l'amour de Dieu fait dans sa vie. Encore une fois, c'est une révolution copernicienne pour l'Église. Donc, ça va prendre du temps pour que laïcs, prêtres, évêques, tout le monde en prend la mesure, et ça veut pas dire... je voudrais être très clair là-dessus, ça ne veut pas dire qu'il faut abolir toute idée des hiérarchies. On ne peut pas non plus imaginer une église complètement horizontale, parce qu'il faut bien à un moment donné que quelqu'un prenne des décisions, donne la direction, etc. Mais c'est quand même que dans l'élaboration des décisions, que ce soit beaucoup plus ensemble, et que beaucoup plus de choses, enfin que les choses ne viennent pas juste d'en haut, mais que chacun aussi dans sa vie se sent investi de cette mission, que c'est dans son quotidien le plus humble qu'il doit finalement témoigner de l'amour du Christ. Donc encore une fois, c'est un long chemin, mais j'ai confiance en l'Esprit Saint pour nous guider sur ce sujet-là.
Père Alexandre Joly, ce synode vient d'être lancé, il va durer jusqu'en 2023. C'est le moment aujourd'hui pour les laïcs, pour les fidèles, pour tous ceux qui font partie de cette Église ou qui aimeraient en faire partie, de s'impliquer. Vous avez envie de lancer un appel ce matin ?
C'est le vrai défi de la vie de ce grand synode qui vient d'être ouvert par le pape François, c'est que chacun se sente concerné. Donc il y a un appel qui est lancé à tous, mais en même temps c'est un processus, comme le pape François aime beaucoup à le rappeler, c'est-à-dire que c'est un chemin. Ceux qui espèrent que tout d'un coup tout va changer, ben non, c'est pas comme ça que se fait un processus. Un processus, il avance, il y a le long temps.
Et on sait bien que
le temps est supérieur à l'espace. Et puis, il y a des points forts. Il y a des moments vraiment très importants. Donc, le moment là, qui est le moment vraiment important, c'est celui de l'église diocésaine, l'église particulière. C'est-à-dire dans chaque lieu. Donc, là où il y a la communauté réunie autour de l'évêque, il y a un chemin et une étape importante à vivre. Donc cette étape diocésaine, il faut vraiment pas la manquer, parce qu'elle va être à la fois précieuse pour la réflexion de l'Église universelle, et elle va être précieuse pour l'Église locale elle-même, puisque en cheminant, elle voit aussi quel chemin faire, quel chemin parcourir, parce que l'invitation du synode, c'est aussi bien de dire, ben voilà ce que nous vivons, voilà ce qui nous semble important de vivre, voilà ce que l'Esprit nous appelle à vivre et voilà ce qu'on va essayer de mettre en œuvre, soit de confirmer dans notre manière de faire, soit de transformer, soit de réformer, soit de convertir. Donc il y a un vrai chemin pour l'instant qui est celui de l'étape diocésaine, qui nous conduit là concrètement jusqu'au mois de mai. Donc souvent les diocèses, c'est autour de la mi-avril qu'ils vont terminer cette grande première étape du synode, avant qu'il y ait le discernement au niveau de la conférence des évêques de France. Discernement qui sera fait aussi les évêques avec des fidèles des différents diocèses de France. Donc il y a une démarche aussi synodale jusque dans le discernement. Et je me permets de préciser que c'est ce processus qui est vraiment un processus d'écoute et de participation qui laisse vraiment apparaître une église où chacun a sa place, chacun peut participer. Mais il se fait aussi, comme le rappelle le document préparatoire du synode, là, ce très très beau document, il ne peut se réaliser qu'au sein d'une communauté qui est hiérarchiquement structurée. Donc il y a le sacerdoce baptiste, ce qu'on appelle le sacerdoce baptismal, c'est-à-dire que chaque chrétien, en étant baptisé, effectivement, il est prêtre, il est prophète, il est roi. Et c'est à ce titre qu'il non seulement peut, mais doit prendre sa place complètement dans la vie de l'Église. Et puis en même temps, il y a le sacerdoce donc ministériel, c'est l'organisation de l'Église qui est hiérarchiquement structurée. Et c'est cette articulation que nous sommes en train de travailler, de continuer à travailler, d'ajuster. Et donc je pense que c'est providentiel. L'Église est en train de vivre un moment unique, un moment qui sera vraiment source d'une grande fécondité.
Monique Beaujard, comment convaincre les personnes de participer à ce synode, de s'impliquer, de prendre la parole alors qu'elles y sont invitées?
Le mieux que je peux faire, c'est de lire cette phrase qui est à la fin de ce document, où le pape dit que bon, le but du synode, c'est pas de produire des documents, mais faire germer des rêves, susciter des prophéties et des visions, faire fleurir des espérances, stimuler la confiance, bander les blessures, tisser les relations, ressusciter une aube d'espérance, apprendre l'un de l'autre et créer un imaginaire positif qui illumine les esprits, réchauffe les cœurs, redonne des forces aux mains. C'est cette idée d'un imaginaire. On est aujourd'hui avec tout, des crises, des questions des abus, etc. On est dans un imaginaire qui est triste, qui est rabougri. On a besoin d'un autre imaginaire. On a besoin d'un autre imaginaire pour notre société, mais on a aussi besoin d'un autre imaginaire pour notre Église. Et cet imaginaire, on ne peut le construire que collectivement. Donc vraiment, oui, moi j'invite chacun, où qu'il soit, quelle que soit sa position, de trouver un petit groupe, s'il n'y a rien d'organiser auprès de lui, de trouver un petit groupe pour réfléchir et de travailler sur qu'est-ce qu'on peut rêver comme Église. Et je pense qu'on peut avoir des très belles rêves encore.
Donc se mettre en route, hein, au sens propre du terme, oui. Puisque c'est le sens du mot synode.
Véronique.
Tout à fait. Oui.
Allez-y, Monique.
Oui, non, Monsieur Joly le disait, pour le pape, en fait, ce qui compte, c'est que les gens se mettent en route. Quand il dit, en fait, le temps est supérieur à l'espace, c'est-à-dire qu'il trouve que c'est mieux d'initier un processus plutôt que d'occuper un lieu, de dire, voilà, tel point, etc. Si tous les chrétiens, ou si tout le monde, ou en tout cas une grande majorité, se met en route et prend à cœur, on se dit, voilà, cette Église, c'est moi, et je dois je peux y apporter ma contribution, et je peux la changer, et demain, elle sera plus belle qu'aujourd'hui. Ben voilà, ça peut marcher. Mais encore une fois, il faut prendre patience, il faut prendre son temps.
Véronique, est-ce que je peux vous lire la réaction d'une auditrice ?
Avec grand plaisir.
Alors, c'est Annick qui nous dit « L'initiative du pape François est formidable. J'espère que cette initiative portera des fruits. Il ne faut cependant pas être trop naïf. L'institution Église aura du mal à bouger. Les habitudes cléricales sont trop ancrées. À mon avis, la dimension pyramidale devrait sauter. À quand des petites communautés de base où des laïcs formés porteraient la vie de leur communauté en lien avec les prêtres qui se situeraient autrement et de manière plus juste ?» Voilà une réaction intéressante de la part de Monique, d'Annick, pardon. Monseigneur Alexandre Joly, qu'en pensez-vous ?
S'il suffisait d'un événement unique pour tout changer dans la vie de l'Église, dans la vie des hommes, ça fait longtemps que l'Évangile serait en acte dans le monde entier. Donc effectivement, c'est un long chemin. Et le long chemin, il fait que ça ne sera pas forcément au bout de quelques mois que tout d'un coup les choses vont changer. On n'a pas cette utopie. Le Christ n'avait pas cette utopie en appelant les disciples à le suivre, les hommes et les femmes qui ont marché avec lui jusque au pied de la croix. Donc voilà, c'est vrai qu'on sait bien que les choses ne vont pas changer comme ça d'un claquement de doigts. Mais en même temps, ce qui est très très beau, c'est quand on se met en route. Parce que si on se met en route, si on avance, si avant de commencer on dit « ben non, on va pas y arriver », effectivement, on se met pas en route. Moi, j'ai couru des marathons. Un marathon, c'est chaque pas qui va compter. Et parfois, on n'a plus la force d'avancer, mais on continue à oser avancer. C'est comme ça qu'on finit par atteindre la course d'arrivée. La course d'arrivée, on sait bien, elle n'est pas sur cette terre, elle est dans le mystère de Dieu.
Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été nos invités dans cette émission. Donc, vous l'avez compris, consacrée au synode sur la synodalité. La démarche ne fait que commencer. Il y aura d'autres émissions, bien entendu, sur RCF consacrées à cette thématique parce que nous aussi, nous nous mettons en route avec vous tous. Merci beaucoup, Monique Beaujard, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes théologienne, laïque et membre du collectif Promesses d'Église. Père Alexandre Joly, vous êtes évêque auxiliaire du diocèse de Rennes et vous coordonnez la commission de coordination, justement, de ce synode sur la synodalité. Un très grand merci à vous.
Et merci aux équipes de Rennes qui vous accueillaient ce matin, Monseigneur Alexandre Joly. Véronique, vous l'avez dit, il y aura d'autres émissions, notamment dans moins de 2 minutes, hein, tout simplement, dans la seconde partie de Je pense donc j'agis. On va partir dans les diocèses pour voir un petit peu ce qui est en train d'être organisé à propos de ce synode sur la synodalité. À tout de suite.